Biodiversité samedi, le rendez-vous nature de Naz avec le syndicat mixte de la baie de Bournaz.
Vous êtes bien sur Nove FM, nous sommes bien le premier samedi du mois de février, jour de la biodiversité, samedi. Hier était célébrée la journée mondiale des zones humides, occasion d'une belle soirée vendredi prochain. Comme chaque année, soirée Ramsar du syndicat mixte de la baie de Bourgneuf. Ce sera à Saint-Gervais et cette année le thème c'est la loutre d'Europe. Occasion aussi de parler de l'eau, de sa qualité, du suivi de sa qualité. Avec pour invité aujourd'hui Élise Coignot qui justement travaille au syndicat mixte de la baie de Bourgneuf. Vous êtes chargée de mission au littoral. Bonjour Élise.
Oui, bonjour.
On va déjà vous présenter votre parcours qui commence par des études et quelques missions ici et là avant d'arriver au syndicat.
Oui, tout à fait. J'ai commencé mon parcours universitaire par un EUT analyse biologique et biochimique à l'université de Tours. Après, j'ai voulu plus me concentrer sur les problématiques environnementales et j'ai fait un master, une licence puis un master à l'université de La Rochelle. Donc c'était un master sur la gestion de l'environnement et l'écologie du littoral.
Et vous avez travaillé sur plusieurs sites.
Oui, très vite, je me suis intéressée à l'étude des zones côtières. Donc après, j'ai travaillé sur les études des lagunes en Occitanie, puis des estuaires en Nouvelle-Calédonie, et enfin, plus localement, sur la baie de Bourgneuf et la baie de l'Aiguillon.
Ça fait 2 ans et demi que vous travaillez au syndicat?
Oui, j'ai été embauchée au syndicat mixte de la baie de Bourgneuf il y a 2 ans et demi sur le projet Life Reverso plus particulièrement.
Dont on va parler, on va l'expliquer. C'est quoi votre rôle en gros?
En gros, c'est d'étudier les sources de pollution qui peuvent engendrer des impacts négatifs sur la baie de Bourgneuf.
Et justement, les problématiques de contamination, de pollution, ce sont des thèmes qui vous ont très vite intéressé lors de vos études?
Oui, lors de mes premières expériences professionnelles, quand j'ai travaillé sur les molécules qu'on peut retrouver dans la colonne d'eau, donc que ça soit dans les fleuves et dans les eaux littorales, qui peuvent avoir un impact sur toute la biodiversité en général. Et j'ai trouvé ça très intéressant que l'invisible va un peu conditionner tout le reste.
Alors justement, vous allez nous éclairer sur l'invisible. Votre terrain d'action, c'est donc globalement la baie de Bourgneuf et de l'Aiguillon?
Non, aujourd'hui, c'est uniquement la baie de Bourgneuf.
Avec le syndicat mixte, évidemment. Et donc, les zones côtières, vous l'avez évoqué. Et pour quelqu'un qui est spécialisé en biologie, en géographie, zone côtière, ça a une définition particulière?
Oui, tout à fait. La zone côtière, donc, c'est défini comme l'air océanique qui a une profondeur inférieure à 200 mètres, en moyenne, et qui est limitée donc, jusqu'à la zone d'influence des marées, donc la plus haute.
Avec donc, des marées, c'est une zone qui est tout sauf inerte.
Ah oui, c'est un environnement particulièrement actif, donc d'un point de vue à la fois écologique et biogéochimique, notamment du fait de sa position, qui est interface entre la terre et la mer.
On se retrouve donc dans cet environnement qui est riche. Riche de quoi exactement?
En fait, la zone côtière, elle reçoit beaucoup de molécules, hein, donc que ça soit des molécules invisibles ou des molécules plus particulières, et qui vont conditionner tout un tas de phénomènes. Donc c'est des molécules qui sont pour la plupart nécessaires au développement de la vie. Donc c'est par exemple les nutriments. Donc ce qu'on appelle les nutriments, c'est les nitrates, les phosphates ou les silicates qui permettent aux organismes végétaux d'effectuer par exemple la photosynthèse qui est nécessaire à la vie, puisque c'est par la photosynthèse que nous respirons.
C'est super important tous ces nutriments, mais parfois ils sont présents en trop grande quantité. Ça, vous l'observez dans vos études, dans vos recherches?
Oui, mais là, c'est important de dire qu'il s'agit avant tout d'un équilibre qui est nécessaire donc au développement de la vie, comme je l'ai dit. Mais quand ils sont apportés en trop grande quantité ou quand ils sont apportés en quantité déséquilibrée, cela peut entraîner un phénomène d'eutrophisation qui peut entraîner donc ce qu'on appelle des blooms phytoplanctoniques.
C'est quoi un bloom? Exactement.
Un bloom, c'est quand on a un développement important donc de phytoplancton. Donc les phytoplanctons, ce sont des algues microscopiques qui sont pas visibles à l'œil nu. Et un développement trop important peut provoquer ce qu'on appelle une eau colorée. Donc des fois, au bord des côtes, on peut voir une eau, par exemple, verte fluo ou rouge, orange. Et ça, c'est ce qu'on appelle un bloom phytoplanctonique.
Et c'est pas forcément bien, ça?
Non, ça peut provoquer donc un phénomène de zones mortes, donc dans les cas les plus drastiques.
Alors, je vais vous proposer de nous expliquer tout ça en détail, l'eutrophisation, ces fameuses zones mortes, que n'est pas la baie de Bourgneuf, on rassure tout le monde tout de suite, et on va expliquer pourquoi tout cela c'est important, notamment pour la biodiversité. Réponse dans 3 minutes.
Tous les deux sans personne. Florence, Milan, s'il y a le temps, week-end brutal, en bagnole de fortune.
La suite d'une émission sur l'eau, sa qualité et précisément l'eau littorale, spécialité de notre invitée Élise Coignot, qui est chargée de mission au littoral au syndicat mixte de la baie de Bourgneuf. On le rappelle à l'initiative de cette émission. Alors, on poursuit la découverte avec vous, notamment de l'eutrophisation. C'est un terme que j'ai découvert en préparant l'émission avec vous. J'imagine que ça fait partie de votre quotidien, vous ?
Oui, tout à fait. Donc, on essaye de suivre les apports en nutriments, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est les nitrates, les phosphates, les silicates, pour voir si ça peut entraîner un phénomène d'eutrophisation dans la zone côtière de la baie de Bourgneuf.
Comment ce phénomène est provoqué ? Déjà, en théorie, qu'est-ce qui devrait bien se passer et qui ne se passe pas bien quand il y a eutrophisation ?
Alors, après, ça dépend un petit peu des milieux. Donc, un milieu où il n'y a pas beaucoup de nutriments qui est apporté, on appelle ça un milieu oligotrophe. Et quand les nutriments vont être apportés en plus grande quantité, c'est un milieu qui va être appelé milieu eutrophe. Donc, quand tout se passe bien, le phytoplancton, donc ces algues microscopiques, se développent à la surface de l'eau. Et sa croissance, donc son développement, est limitée par la quantité de nutriments disponibles pour tout le phytoplancton. Donc, les algues benthiques, donc sont les algues que l'on voit à l'œil nu, qui sont des fois échouées au bord de la plage et qui sont fixées au bord de l'eau, ont assez de nutriments aussi pour eux se développer. et de lumière, puisque les algues nécessitent aussi la lumière pour se développer. Donc les algues qui sont fixées au fond de l'eau et le phytoplancton qui est à la surface ont assez de nutriments, de lumière pour se développer, et le milieu est bien oxygéné. Donc dans le cas où les nutriments sont apportés en trop grande quantité, le phytoplancton qui est à la surface de l'eau va utiliser toute cette quantité de nourriture entre guillemets disponible et va se développer à outrance. Donc ce qui peut arriver, c'est donc le phytoplancton va utiliser tous les nutriments, il va croître et il va consommer tout le CO2 qui est disponible dans la colonne d'eau et toute la lumière qui est disponible. Et cela va entraîner une baisse de lumière qui est disponible pour les algues qui sont situées au fond de l'eau. Ce qui fait que le fond de l'eau va commencer à s'appauvrir en oxygène. Par la suite, le phytoplancton, à la fin de son cycle de vie, va mourir et va se développer donc au fond de l'eau. C'est ce qu'on appelle la sédimentation. Il va s'ajouter au sédiment. Et les bactéries qui vivent dans le sédiment vont, quant à elles, pouvoir respirer, donc utiliser l'oxygène, utiliser la nourriture aussi qui est présente dans le sédiment, et va se développer, ce qui va entraîner une baisse de la quantité d'oxygène dans l'eau.
Beaucoup de phytoplancton, c'est beaucoup de sédiments à terme, et donc beaucoup de bactéries, si je comprends bien.
Oui, ça peut arriver. Alors après, ça arrive pas de façon systématique, mais à partir du moment où il y a une grande quantité de phytoplancton, donc un bloom phytoplanctonique, c'est quelque chose qui peut arriver à la fin du cycle du phytoplancton. Oui.
Et on peut arriver à une zone morte, dites-vous.
Oui, c'est ça. Donc c'est une zone morte, c'est quand le milieu va s'appauvrir en oxygène. Les animaux qui sont mobiles, donc les poissons, vont éviter cette zone, ils vont partir puisqu'il n'y aura plus d'oxygène pour eux. Et les organismes dits fixés, donc ils ne peuvent pas se déplacer, vont quant à eux mourir par diminution de l'oxygène présent.
Et c'est quelque chose que vous constatez dans certaines zones en particulier ?
Ça peut arriver sur les zones, par exemple en Bretagne, il y a eu des phénomènes d'eutrophisation intense. Mais ici, en Baie-de-Bourneuf, il n'y a pas de zone morte, non.
Alors on est plus en théorie ici sur ce thème. Alors vous souhaitiez évoquer aussi un autre rôle du phytoplancton, c'était une base de la chaîne alimentaire, donc forcément c'est essentiel à la biodiversité.
Oui, le phytoplancton, comme je l'ai dit, va effectuer la photosynthèse qui permet à tous les animaux de respirer, donc dans l'eau mais aussi, aussi sur la terre ferme. Le phytoplancton aussi est situé à la base de la chaîne alimentaire. Donc forcément, il va conditionner toute la biodiversité. Et notamment, il constitue un mets de choix pour les mollusques filtreurs qui sont très présents en Baie-de-Bourneuf. Donc ce sont les huîtres, les moules, les palourdes.
Ces mollusques donc très présents. Filtreurs, donc ils filtrent quoi exactement, nos mollusques, les huîtres, les coquillages divers et variés de la Baie-de-Bourneuf?
Bien, ils filtrent l'eau donc pour extraire le phytoplancton pour se nourrir. Après, ils filtrent l'eau, ils ne font pas de sélection dans leur filtration. Donc ils ingèrent également d'autres molécules qui sont présentes dans l'eau et vont être dépendants donc, totalement de la qualité de l'eau qu'ils filtrent.
Ça, on l'a vu évidemment. Le souci, c'est que pour bien travailler, nos filtreurs doivent être en bonne santé et en nombre. Et si l'eau n'est pas de bonne qualité, eh bien, cela pose évidemment question. Quelles sont les principales attaques que peut subir l'eau dans votre secteur? On en a vécu une récente qui a touché le monde ostréicole. Et on en parle dans quelques minutes. You made me pray. FM, premier samedi du mois, la biodiversité samedi nous invite à en apprendre un peu plus sur la qualité de l'eau, spécialité de notre invitée Élise Coignot, chargée de mission au littoral au syndicat mixte de la baie de Bourgneuf. Alors nous étions avant la pause dans la baie de Bourgneuf où vous travaillez d'ailleurs. L'eau de mer peut hélas aussi être touchée par des virus, des bactéries. L'actualité nous l'a tristement rappelé, hein, l'eau, elle peut être aussi attaquée quelque part.
Oui, bah comme les filtreurs donc vont filtrer d'eau, ils vont dépendre de la qualité. Et donc des molécules sont apportées, donc l'eau peut être chargée en virus, en bactéries comme vous l'avez dit, mais aussi en métaux lourds et en pesticides, qui peut avoir un impact sur la croissance, la reproduction, même la survie hein, de ces organismes. Même si certains métaux lourds sont essentiels à la vie, là il s'agit encore d'un équilibre. Et en effet récemment, en baie de Bourgneuf, donc comme nous le savons, il y a eu des problématiques de virus ou de bactéries, puisque ces organismes peuvent être présents dans l'eau et peuvent contaminer les coquillages et engendrer donc des infections pour l'homme notamment.
Alors on a beaucoup évoqué la responsabilité de l'homme justement hein, dans ces organismes. On parle souvent de contamination fécale des eaux côtières et c'est souvent l'homme qui en est le premier responsable.
Oui, effectivement, les bactéries ou les virus d'origine fécale dans l'eau peuvent contaminer les coquillages par le biais donc de la vente ou de la pêche directe de ces organismes, qui peut provoquer donc des toxi-infections alimentaires, comme vous l'avez dit. Donc, parmi les bactéries, on peut citer la bactérie Escherichia coli, qui est une bactérie naturellement présente dans la flore digestive des animaux à sang chaud. Les animaux à sang chaud sont donc les humains, les bovins, les équins, même les chiens, les chats. Donc, les bactéries fécales peuvent être apportées donc par la terre, par plusieurs sources. Donc parmi les sources, il y a les origines humaines. Donc ça peut être les rejets directs de stations d'épuration ou de systèmes d'assainissement autonomes.
Alors on a la responsabilité de l'homme, mais aussi quelque part des animaux, aussi de l'homme, hein, puisqu'on a les animaux d'élevage qui peuvent influencer la qualité de l'eau.
Oui, puisque Escherichia coli donc est présent dans les flores digestives des animaux à sang chaud. Elles peuvent provenir des déjections animales, donc cela peut avoir un lien avec les pratiques agricoles, comme par exemple les animaux d'élevage qui sont sur les terres agricoles, les déjections qui sont déposées par les animaux en pâturage sur les prairies, en bord des cours d'eau notamment, mais aussi le déversement direct des déjections animales dans les eaux.
Et on a aussi une origine animale sauvage, voire domestique.
Oui, cela peut concerner donc les chiens qui sont promenés sur les plages ou en bord des cours d'eau, mais aussi les bactéries peuvent provenir donc des déjections des animaux sauvages par ruissellement, donc quand il pleut et que l'eau est apportée vers les cours d'eau. Donc cela va emporter toutes les déjections, donc des ragondins, des sangliers et tous les animaux sauvages qui peuvent être présents sur le territoire.
On a beaucoup parlé de ces zones d'épuration, de déversement sur la baie de Bourgneuf, notamment au mois de décembre. C'est quelque chose qui est fréquent, c'est quelque chose qui pose question de votre point de vue de biologiste.
Les stations d'épuration, oui, donc peuvent apporter des molécules sur le littoral de la baie de Bourgneuf. À ce jour, fort heureusement, beaucoup de stations d'épuration sont aux normes au niveau de la qualité bactériologique, donc sur les apports en bactéries dont j'ai parlé. Après, pour tout ce qui est les systèmes d'assainissement, là, on peut trouver des non-conformités qui peuvent apporter des bactéries au niveau de la zone côtière.
Quand vous trouvez des bactéries un peu plus importantes sur tel ou tel secteur, vous allez rechercher la source ?
Oui, on va rechercher la source de bactéries. Donc ça passe par une campagne de prélèvement, donc le long d'un réseau pour trouver l'origine de contamination. Après, on peut faire aussi des analyses ADN. Comme je vous ai présenté tout à l'heure, les bactéries peuvent provenir de l'homme, hein, mais aussi des chats, des chiens, des bovins. Donc on recherche les molécules ADN qui peuvent nous dire si la bactérie elle est d'origine plus humaine ou animale. Et en fonction de ces données, on peut déjà avoir une estimation de l'origine de la pollution.
Alors c'est là que votre travail est important. Le syndicat mixte de la baie de Bourgneuf intervient. Vous l'avez évoqué via le projet Life Reverso, c'est-à-dire ?
Alors le projet Life Reverso, c'est un projet régional. Donc il y a plusieurs actions qui visent à améliorer la qualité de l'eau. Et nous, l'action qui est portée par le syndicat mixte de la baie de Bourgneuf est focalisée donc à l'interface terre-mer. Et le but de cette action, c'est de créer une synergie au niveau de cette interface pour essayer d'étudier la qualité de l'eau qui est apportée vers la mer, les impacts que cela peut avoir et comment on peut agir pour réduire justement au mieux ces impacts.
Et donc ça passe par un protocole particulier que vous devez suivre, des prélèvements que vous effectuez très régulièrement ?
Oui, alors ce projet, il a trois objectifs. Donc c'est avant tout, donc comme je l'ai dit, étudier la qualité de l'eau qui est apportée vers la mer. Mais aussi, il s'agit de trouver les sources de pollution que l'on peut trouver sur le territoire. et de mettre en place donc des mesures de gestion une fois que ces sources de pollution sont identifiées. Donc pour cela, il y a 53 sites qui sont présents sur la baie de Bourgneuf, donc qui apportent des eaux douces vers la mer. Donc ce sont les cours d'eau, les étiers, mais aussi le réseau d'eau pluviale, puisque des fois, si vous pouvez voir sur la plage, il y a des gros tuyaux qui se jettent directement sur la plage. Donc ça, c'est le réseau d'eau pluviale qui apporte l'eau donc sans traitement directement sur l'estran. Donc cette eau-là, elle est aussi analysée pour essayer d'identifier les différentes pollutions qui peuvent être amenées au niveau du littoral.
Donc vous réalisez des prélèvements très régulièrement?
Oui, en moyenne, donc les 53 sites dont j'ai parlé sont analysés toutes les deux semaines, dans le but de créer une base de données pour savoir quels types de molécules sont apportées et quand. En fonction de ça, d'essayer de trouver les sources de contamination au niveau de ces sites. C'est-à-dire que quand un site est fréquemment contaminé, des prélèvements sont effectués donc de l'aval, donc directement vers la plage, vers l'amont du réseau, pour essayer de trouver la source de contamination et d'agir une fois que cette source est identifiée.
Alors, vous avez un petit labo, syndicat ?
Alors, on a une convention de partenariat avec l'IFREMER, qui nous permet d'utiliser son laboratoire pour essayer d'avoir des résultats très rapidement. Donc, en moyenne, 12 heures après un prélèvement, et grâce à ce partenariat, on peut savoir si un site est déjà contaminé pour rapidement revenir sur site et trouver la source de pollution.
Et alors là, en 2 ans et demi, qu'est-ce que vous avez appris de vos prélèvements ?
Donc à ce jour, plusieurs sources de contamination, donc notamment bactériologiques, ont été identifiées sur le littoral de la baie de Bourgneuf. Donc des mesures de contrôle et de gestion ont été initiées par les communes qui sont concernées, puisqu'on travaille beaucoup avec les communes du territoire. Donc certains résultats sont probants. Sur certains sites, les apports en bactéries ont été considérablement réduits, ce qui induit une diminution des coquillages présents sur le littoral.
Alors, est-ce qu'on a une marge de manœuvre, en fait, sur les sources de contamination et puis sur la présence de ces bactéries? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, peut-être à titre individuel, voire collectif?
Oui, alors, quand il s'agit donc des stations d'épuration ou des épandages, de l'élevage, donc là, ça va être plutôt les communes et les professionnels qui vont être concernés. Après, à titre individuel, on peut agir directement, puisque les apports en bactéries, donc, qui peuvent être dus par les humains, par les chiens, donc notamment l'été, il pourrait s'agir de ramasser, par exemple, et d'éjection de animaux pour éviter qu'ils se retrouvent sur le littoral et contaminent les coquillages. Aussi éviter les rejets directs dans l'environnement, donc par notamment les rejets des eaux usées des camping-cars ou les rejets directement par les humains dans les fossés.
En tout cas, vous êtes en alerte, on a compris. Merci beaucoup de tous ces éclairages, Élise. Dernière question, je pense que vous la connaissez si vous travaillez au syndicat mixte de la baie de Bourgneuf, je la pose à chaque fin d'émission. La biodiversité, elle est magique, c'est cette magie qui vous pousse et qui vous motive à la défendre.
Oui, c'est surtout aussi parce qu'il s'agit d'un équilibre parfait qui a pris plus de des centaines de milliers d'années à se construire et dont aujourd'hui l'humain en dépend en entièrement. Donc désormais, on connaît les menaces qui pèsent sur cet équilibre, donc il paraît essentiel de tout faire pour le protéger.
Et vous êtes là aussi pour ça, merci beaucoup. On rappelle, vendredi prochain, peut-être vous serez là, Élise, le 9 février à Saint-Gervais, on a la belle soirée Ramsar proposée par le syndicat mixte de la baie de Bourgneuf, et le thème c'est la loutre d'Europe, avec un spécialiste qui va venir nous en parler. Ce sera à 20h, salle des primes vertes, ce sera gratuit et ludique. Très bon week-end à tous.